BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens en coopération avec Euranet+. Comme on l'a vu dans le détail, dans la première demi-heure, c'est facile pour une multinationale qui s'organise bien de ne pas payer d'impôts en Europe. Parlons à présent des impôts et charges qui pèsent sur nous, qui pèsent sur les particuliers. A priori, les Européens paient tous des impôts. Il faut bien que chacun apporte sa contribution au bon fonctionnement de l'administration, des services publics, de la protection sociale. Mais certains paient plus d'impôts que d'autres. Les Européens ne sont pas tous libérés fiscalement en même temps. Dans certains pays, c'est d'ailleurs édifiant. On va le voir. À partir de quel jour de l'année les Français et les autres Européens arrêtent-ils de se lever le matin pour gagner de quoi payer leurs impôts? Nous sommes toujours ici en studio avec Eric Walravens, auteur de Dumping Fiscal, enquête sur un chantage qui ruine nos États aux éditions Les Petits Matins. Et nous allons être rejoints par la directrice de l'Institut Molinari qui va nous dévoiler le jour de la libération fiscale en France. Voilà le programme de cette nouvelle partie de 500 millions d'Européens pour réagir, hashtag 500ME. Alors, le jour de la libération fiscale, c'est le jour de l'année où le contribuable moyen a accumulé suffisamment d'argent pour payer tous ses impôts et toutes ses charges jusqu'à ce jour-là de l'année. Il travaille pour la communauté et ensuite, il travaille pour lui et sa famille. Bonjour Cécile Philippe.
Bonjour Yann-Anthony.
Vous êtes directrice de l'Institut Molinari et vous allez nous dire à quelle date les Français vont arrêter de travailler pour l'État cette année. Parce que chaque année, vous publiez cette étude et les chiffres évoluent. Et là, cette année, quand est-ce qu'on arrête de se lever pour payer des impôts?
Eh bien, cette année en France, ça va être le 28 juillet. C'était l'an passé le 26 juillet. Donc, ça y est, on perd deux jours. Les choses ne se sont pas améliorées. Les cotisations patronales et les cotisations salariales et la TVA ont légèrement augmenté. Du coup, on perd deux jours de l'année. En tout cas, on travaille deux jours de plus pour pouvoir, en fait, financer ce que nous avons appelé le fardeau fiscal et social, puisqu'il s'agit de mesurer l'ampleur des impôts et des charges que l'employé moyen de l'Union européenne, et donc en l'occurrence là, le Français, doit payer chaque...
Vous arrivez à un taux de combien pour le Français, donc si on cumule tout, les impôts, les charges?
On est à un taux de prélèvement obligatoire de pas loin de 60%.
Pas loin de 60%, donc on travaille deux jours de plus pour voilà, l'État absolument. Cette année que l'année dernière.
On n'est pas les derniers.
Donc c'est le 28 juillet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juilletistes, ils y gagnent? Ça veut dire qu'ils partent en vacances pendant un mois et ensuite les Haussiens? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste arithmétique. Ceux qui arrivent les tout premiers en Europe, Cécile Philippe, c'est quel pays? Parce qu'en fait, c'est une sorte de course, c'est une course à la libération fiscale, et ça veut dire que les Français arrivent au mois de juillet, mais qui arrive en premier?
Alors les premiers, là, pour 2014, c'est Chypre, le 21 mars. Ensuite, on a l'Irlande, le 28 avril, Malte, le 28 aussi. Ouais. Puis on passe à mai, avec le Royaume-Uni, le 12, la Bulgarie, le 18. Cette semaine, on a célébré la libération de l'Estonie, de l'Espagne, de la Croatie, ce week-end, la Pologne. Et puis, mais ça signifie quand même que...
Le 21 mars, pour les Chypriotes? Mais ça correspond à quoi? C'est un taux d'impôt de 15%, ça?
Oui, ça doit être. Enfin, ouais. C'est vraiment très faible puisque donc ils vont payer pour janvier, février, mars, c'est ça. Donc on est un quart de l'année, un trimestre, donc on est à peu près 25%.
Et les derniers de la course?
Et les derniers de la course, ce sont encore les Belges.
Ah, les Belges.
Une libération. Ouais, toujours les Belges. Et parce qu'en fait, notre indicateur, en fait, j'aime bien dire que c'est un indicateur de liberté, hein, parce que c'est le jour où véritablement l'employé moyen va décider comment dépenser son argent. Parce que c'est vrai que dans notre méthodologie, on prend le salaire brut de l'employé, on ajoute les cotisations patronales, les cotisations salariales, l'impôt sur le revenu et puis la TVA. Et donc, vous avez à la fois l'aspect social des dépenses publiques et l'aspect fiscal. Donc, vous savez comme moi que effectivement nos impôts et charges financent la protection sociale, à savoir la santé, les retraites. Mais à dater, donc par exemple du 28 juillet pour la France, eh bien les Français décident de comment dépenser leur argent. Donc c'est quand même un indicateur de liberté individuelle et économique sur la façon dont on souhaite dépenser son argent. Et évidemment, ça permet aussi de savoir quel est le coût finalement des services publics et de la sécurité.
Alors justement, à ce titre-là, la Belgique et la France qui arrivent derniers, qui sont libérés fiscalement les derniers en Europe, est-ce qu'ils ont des services publics, est-ce qu'ils ont un climat des affaires, est-ce qu'ils ont un, je sais pas moi, un taux d'espérance de vie et autres, le fameux indice de l'ONU qui est de développement humain qui est comparable aux autres pays européens.
Est-ce qu'on pourrait penser, en tout cas espérer, qu'effectivement avec une pression fiscale forte, c'est un gage de qualité. Ben, par exemple, pour la France, c'est pas du tout évident puisque elle fait vraiment figure de mauvais élève. Vous avez des pays qui ont une pression fiscale moindre et qui obtiennent un indice de développement humain proche du nôtre, comme l'Autriche, la Finlande, la Slovénie, le Danemark, ou bien vraiment supérieur, comme l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas. Ce qui signifie qu'on peut quand même faire mieux en prélevant moins, quoi.
Alors, l'indice de développement humain des Nations Unies évalue le bien-être. Il prend en compte le niveau d'éducation, le niveau de vie et l'espérance de vie. La France arrive 20e sur 177 pays dans le monde qui sont repris par ce classement.
Mais, on l'a bien informé.
Mais au niveau européen, la France n'arrive que 8e, donc des positions qui ne semblent pas franchement à la hauteur des dépenses publiques.
À la hauteur de nos dépenses publiques, ouais, exactement. Sachant que la tendance est pas bonne, puisqu'on continue à augmenter la pression fiscale, vous savez comme moi, hein, puisque ça a été le débat au cours des derniers mois sur le ras-le-bol fiscal. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que les pays que je vous ai cités, ce sont tous des pays qui ont réussi au cours des dernières années à entamer des grandes réformes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans notre étude, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même qu'au niveau de l'Union européenne, la pression fiscale depuis 2010, date à laquelle nous avons commencé donc à réaliser notre étude, a progressé puisque maintenant elle est de 43,99% en 2010, elle atteint maintenant 45,27%. Mais c'est le chiffre global, seulement au sein donc des pays de l'Union européenne, vous avez donc les pays qui ont fait le choix d'augmenter la pression fiscale. Et donc, vous avez quand même des pays comme la Grèce, qui est libérée 31 jours plus tard qu'en 2010. Vous avez l'Espagne, qui est libérée 27 jours plus tard. Et vous avez aussi un autre groupe de pays, qui, lui, a fait exactement l'inverse, comme les Pays-Bas, qui, eux, gagnent 12 jours depuis 4 ans, le Danemark 10 jours, l'Allemagne 8 jours, la Suède 7 jours.
Alors, on vient de vous écouter longuement, Cécile Philippe, directrice de l'Institut Molinari, avec cette étude sur la libération fiscale chaque année, le Tax Freedom Day. Alors maintenant, je prends et j'ouvre à la page 170, 170, le livre d'Eric Walravens en face de moi, Dumping fiscal, enquête sur un chantage qui ruine nos États. Je vais vous faire la lecture, Cécile Philippe. La journée de libération fiscale, le Tax Freedom Day, parrainé par des instituts ultralibéraux à travers le monde, offre un exemple flagrant de dérive idéologique. Dans cette conception pour le moins étroite, l'État est un corps étranger qui ponctionne ses citoyens, tandis que les notions de redistribution et de service public n'existent tout simplement pas. Eric Walravens, visiblement la libération fiscale, votre truc. Alors Eric.
Déjà rien que le choix de la terminologie, on est en train de sortir des commémorations du débarquement et on parle de libération fiscale. Quand j'entends que des pays, que l'Estonie a été libérée très tôt, enfin les gens qui ont un peu de mémoire historique apprécieront à leur juste mesure le choix du mot de libération. Mais pour moi l'impôt, j'aime pas le payer, je suis comme tout le monde, mais c'est quand même aussi un geste citoyen. Et les services publics, l'enseignement, ils ne s'arrêtent pas le 28 juillet, enfin bon, bien que ce soit les vacances, mais c'est toute l'année les services publics.
Cécile.
Bien sûr, mais on a un droit de regard justement sur l'emploi de notre argent et sur la qualité de nos services publics et sur le constat que au cours des 40 dernières années, notamment pour la France, les recettes publiques n'ont jamais cessé d'augmenter, mais pour autant, nos services publics ont plutôt stagné ou leur qualité n'a pas augmenté. Et voir le contraire, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des déficits, avec un système de retraite qui n'est plus un système à proprement parler de répartition, puisque depuis 2005, on finance une partie des retraites par l'endettement. Notre système de santé génère des déficits tous les ans. Donc on a, je trouve, une parfaite légitimité à s'interroger sur l'utilisation de notre argent, sur l'utilisation du travail, enfin des revenus du travail, puisque au bout du compte, ils ne suffisent pas pour équilibrer les comptes publics et pour financer des services publics dont on peut se demander si la qualité est à la hauteur du coût.
Bah là, clairement, en tout cas, quand on fait
clairement une demande citoyenne normale et voilà, c'est tout simplement. Une chose normale.
Hein. Clairement, en tout cas, quand on regarde donc le classement de la France, qui arrive avant-dernier dans la course à la libération fiscale, alors je sais pas, apparemment on peut pas dire libération pour Eric, on va dire qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre je sais pas, bon, gardons libération, oui, si ça ne heurte pas trop vos oreilles, Eric.
On peut changer le nom, la question, c'est un terme qui fonctionne bien, parce que c'est rapide, et donc en termes de communication, c'est utile, mais l'important, c'est vraiment de garder cette idée que effectivement l'employé moyen au sein de l'Union européenne s'acquitte d'un montant d'impôts et charges extrêmement élevé et qu'il est normal qu'on s'interroge sur la façon dont c'est utilisé.
Eric Walravens,
qui pour une entreprise, quand on achète un bien, le consommateur a un droit de regard sur la façon dont l'article est défectueux, le rendre ou faire un procès, etc. Donc ça me paraît mais d'une logique implacable que d'avoir à demander des comptes.
Eric Walravens qui récuse le terme de libération fiscale, mais qui lui intitule son livre Dumping fiscal, enquête sur un chantage qui ruine nos États quand même. Donc vous Eric, ça vous frappe pas quand vous vous rendez compte que donc en France, visiblement, c'est un des pays qui paye le plus d'impôts en Europe, mais pour autant, ceux qui payent le plus d'impôts, ils en ont pas franchement pour leur argent.
Mais si, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on doit mesurer à quoi est affecté l'argent des impôts, mais en l'occurrence, l'indicateur du jour de libération fiscale ne se borne à mesurer le simple taux de prélèvement obligatoire étalé sur l'année. C'est pas un indicateur qui vous donne une appréciation réelle de ce qu'on a pour les impôts qu'on paye, au contraire. Je pense que c'est tout à fait légitime de vouloir mesurer à quoi est dépensé l'argent, mais ce n'est pas ce que fait le Tax Freedom Day.
Cet indicateur est, je trouve, extrêmement utile parce que justement, dans nos pays, le coût, justement, le prix de nos services publics, et je pense en particulier à la retraite et à la santé, elles sont financées directement par des cotisations qui, pour le salarié, sont pratiquement invisibles. C'est pratiquement des prélèvements à la source. Donc finalement, aujourd'hui, les gens ne se rendent absolument pas compte que l'élément le plus important dans les prélèvements obligatoires, ce sont les cotisations. Ce sont les cotisations patronales et salariales. Et justement, l'intérêt d'un indicateur comme celui-là, c'est de le révéler et c'est de montrer que ça a un coût très important et que par conséquent, on ne peut pas juste le considérer comme inexistant parce que la plupart des gens, vu la complexité du prélèvement de ces charges, plus personne ne se rend compte de ce que coûte justement la santé, la retraite ou la politique familiale dans le cas de la France.
Cécile Philippe, directrice de l'Institut Molinari, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir annoncé cette bonne nouvelle qu'on doit travailler 2 jours de plus pour payer nos impôts. Donc en France, c'était le 26 juillet l'an dernier. Ce sera le 28 juillet cette année, en 2014. Merci Cécile, à bientôt. Vous restez avec